ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Bonjour à tous et à et Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons tâcher ce soir de faire la troisième et dernière partie de cette réflexion sur distinction entre pilotage et éducation. On continue sur l'analyse de la distinction et de la complémentarité de ces deux démarches de pilotage et éducation. On a vu précédemment comment on combine harmonieusement ces deux choses-là qui semblent se contredire, piloter et éduquer. Ça a l'air d'être deux choses qui se tournent le dos, qui se contredisent. Le pilotage, lui, il impose. Donc s'il impose, ça crée forcément une résistance du nefesh, comme ça on est bâti. Le nefesh se résiste contre toute imposition, c'est un système de sauvegarde de l'être humain. Donc si il crée une opposition, comment on va faire pour faire intérioriser? On dirait qu'on a reculé, vous vous souvenez ce qu'on a vu ensemble. Le chinuch, lui, c'est le contraire, il rapproche, il sensibilise, il valorise, il rapproche la chose du cœur de l'enfant. Alors comment on fait le shalom entre ces deux démarches? Et on avait vu que c'est tout simplement en les agençant correctement, en les mettant chacun à la bonne place, dans l'espace, dans le temps. C'est-à-dire qu'on pilote d'abord, qu'on fait le chinuch après. Bien sûr, on a vu tout ça très en détail, je ne reviens pas dessus. Ça veut dire qu'en fait, en les agençant correctement à leur bonne place, ça se transforme en un processus éducatif. Une première phase et une deuxième phase. Et tout cet ensemble, ça forme un système qui marche bien ensemble. Pour vous donner un exemple très simple, pour imaginer la chose, comment on fait la paix, le shalom entre le feu et l'eau? Comment on fait? On prend une marmite. On prend une marmite qu'on interpose entre le feu et l'eau, et du coup, tout va très bien. Ils marchent tous ensemble, ça s'appelle un système. Ma'arechet. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est des enseignements réels de chez nous. Si quelqu'un il rêve d'une marmite, il rôle de sa pote le shalom. C'est un signe, un bon signe qui peut attendre le shalom. Alors le Rav Jacobson, il dit très drôlement, il dit, si toi tu rêves d'une marmite, ne commence pas à imaginer que tu as des dons de prophétie, c'est parce que tu n'as pas lavé la vaisselle hier soir. Il dit, aval, pourquoi celui qui rêve d'une marmite, il peut attendre le shalom? Parce que c'est exactement ça l'image. La marmite, elle fait le shalom entre le feu et l'eau. Et donc ça veut dire que tu as des éléments contradictoires qui, lorsqu'ils sont bien agencés à leur bonne place, ça forme ce qu'on appelle un système, une ma'arechet en hébreu. Et c'est ça, le processus éducatif, je vous ai dit déjà, beaucoup se sont trompés en isolant les éléments au lieu de les combiner, et l'un et l'autre va dans une erreur. Ceux qui font tout pilotage, ils vont dans une erreur. Ceux qui font tout rhinour, explication et machin, ils vont aussi dans une erreur. Ici, on a besoin d'un système. On a besoin d'un processus, en hébreu ta'alir, qui va faire la paix entre tous les éléments. Bon, ça, nous avons vu ça très en détail, je ne reviens pas dessus. Et on a vu également que ce type de relationnel à l'enfant qui est composé de afalav et chinour, de pilotage et éducation, implante les modèles, le modèle idéal de sa gestion de vie, de sa avodat Hashem, puisqu'on a dit que ça implante chez l'enfant une gisha, une approche où il va agir avec une combinaison de mechouyavut et de itnadvut, c'est-à-dire une combinaison où il se sent tenu par une obligation et en même temps il y ajoute son ratson personnel. Et donc ce modèle, c'est pas juste un modèle idéal éducatif, et là que ça plante les bonnes dispositions équilibrées pour la gestion de la vie et pour la gestion de la avodat Hashem, bien évidemment. On avait vu également que af'alav et chinuch, pilotage et éducation, c'est dans cette vis-à-vis de l'enfant, c'est comme ça qu'on doit faire. Et on avait vu à la fin que vis-à-vis de nous-mêmes aussi, c'est comme ça qu'on doit faire, vous rappelez? C'est-à-dire que si quelqu'un il marche que sur le mode de la afala vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne fait que se piloter, il ne marche que sur le mode de la contrainte, ça ne se pérennisera pas. Ou alors, ça se pérennisera, mais ça ne se transmet pas. Et c'est ça qu'on a mis le doigt là-dessus à la fin du raisonnement la dernière fois. On a expliqué qu'une avodat Hashem qui se transmet, c'est une avodat Hashem où il y a de la simcha. La simcha, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en beau fixe, on a des aliyah, veyirida, on est des êtres humains, pas des robots préprogrammés. Mais ça veut dire que dans l'ensemble, il y a du chinour. Du chinour, ça veut dire de l'encouragement, de la simcha. Il y a une bonne avira. Ça, ça se transmet. Ce qui se transmet, c'est là où il y a de la simcha. C'est là où il y a de la satisfaction. Là où il n'y a pas, où on fait que sur la contrainte, pour nous-mêmes comme pour l'enfant, c'est une entité qui n'est pas transmissible. Voilà où des fois le hic se fait. C'est ce qu'on avait vu à la fin du raisonnement la dernière fois. Maintenant, la question que qu'on peut poser, pourquoi on doit faire toutes ces analyses compliquées et novatrices, af à la vechinour, pilotage, éducation, ça semble très très technocrate et compliqué, alors que des générations précédentes n'avaient aucune idée de tous ces mécanismes et ils s'en sont sortis pas si mal que ça du tout. Alors pourquoi on est obligé de parler de ça? L'Orav, il a dit, parce que quand on parle de maisons qui s'en sont bien sorties sans savoir toutes ces choses-là, on parle de ce qu'on appelle la maison traditionnelle. La maison traditionnelle avant l'éclatement de la cellule familiale, qui est aujourd'hui un petit peu la toile de fond de la génération. Et dans une toile de fond d'éclatement de la cellule familiale, dans un creuset, on va dire, où il y a de l'impatience, de l'irritabilité. Je vous ai dit déjà que je ne parle jamais de vous, hein, vous savez. Vous savez, je parle des peuplades. Je ne sentais même pas concerné. Je le rappelle comme ça par sécurité, mais bon. Et, alors, c'est sûr que ce n'est pas le même creuset normatif. Le creuset normatif des générations précédentes, même si ça n'avait rien de la pédagogie, c'était un creuset normatif où il y a plein de chaleur, où il y a de l'encouragement naturel, pas parce que je l'ai appris dans la technique de Chinour, oui. Où il y a, et, il y a aussi un rythme de vie qui n'était pas le même. Donc, il n'avait pas besoin de toutes ces analyses. Aujourd'hui, la génération a très besoin de ces analyses. Quand je dis ces analyses, ça veut dire ces prises de conscience-là, de faire attention de ne pas tomber que dans le pilotage ou que dans le chinour. Pourquoi? Parce que notre mode de vie, il favorise de tomber dans ces écueils-là. Notre mode de vie, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas un effort personnel pour ajouter de la chaleur, pour ajouter de l'encouragement, pour ajouter toutes ces merveilleuses choses, alors on peut facilement glisser dans une atmosphère où il n'y a pas assez de chaleur, il n'y a pas assez d'encouragement, il y a du stress, toutes ces choses-là rajoutent. D'accord ? C'est aussi ce genre de choses qui causent aussi les problèmes de concentration, puisque imaginez-vous bien que pour se concentrer, le Rav Jacobson disait, pour se concentrer, ça demande à l'homme beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Et notamment, ça lui demande Yishuv Hadat. Vous savez ce que c'est Yishuv Hadat ? Ça demande être bien posé, être serein. Or, notre société, son mode de vie, même si on est des gens très bien et très gentils, même si on est des gens très très bien, notre mode de vie est tellement dans la précipitation et dans le stress, et l'affection n'est pas suffisamment démontrée en général, il y a tellement d'éléments que c'est un petit peu la résultante logique après qu'il y ait des problèmes de concentration. La concentration demande beaucoup de ressources à l'homme, à l'enfant, comme on voit. Donc, bon, nous on va essayer de faire Ishtablout, bien sûr, pour rajouter plus de sérénité, rajouter plus d'affection, démontrer comme on a vu précédemment. Bezrat Hashem. Alors, on a vu donc très clairement qu'un pilotage standard va créer de l'opposition automatiquement chez l'enfant. D'accord ? Ça, je pense que nous l'avons bien compris. Maintenant, je vais passer à une vitesse supérieure. C'est la Tishmaya. Et je vais évoquer maintenant quelque chose d'un peu plus difficile, qui est le résultat, non pas d'un pilotage standard, mais d'un pilotage, ce que je vais appeler acharné. Alors, le Rav parle maintenant d'un thème qui est un peu difficile, mais c'est bien de le savoir pour éviter de tomber de près ou de loin dans ce genre de choses, Khalila. Et le Rav dit comme ça, hein, lorsque il y a un pilotage acharné et qu'il n'y a pas de chinour, on a bien compris, hein, il faut les deux, c'est pas juste une opposition que ça peut générer chez l'enfant, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fort qui s'appelle une intolérance. Vous savez que dans les réactions aux aliments, il y a toutes sortes de niveaux. Il y a rigichout, sensibilité à, je ne sais pas moi, le soja ou le, peu importe. Ouais. Après, il y a isvilout en hébreu, c'est-à-dire intolérance, que la personne, elle sent même l'odeur de je ne sais pas quoi, ça lui fait déjà des réactions. Il y a toutes sortes de niveaux de réactions, oui. Ici, on va parler quelles sont les conséquences d'un pilotage acharné. Je précise, c'est quelque chose de rare, d'accord, mais vraiment acharné. Et ici, il s'agit de ce qu'il appelle intolérance, une intolérance complète. C'est-à-dire qu'à force de piloter de façon entêtée un enfant, et qu'il n'y a pas de chinour qui vient corriger tout ça, quelqu'un peut arriver à une situation où l'enfant il a une véritable intolérance vis-à-vis de cette même chose sur laquelle il a été piloté de façon acharnée. Alors mettons les ceintures, un peu difficile, mais il vaut mieux savoir ça, aujourd'hui, maintenant, et s'en éloigner le plus loin possible. Un jour, le Rav Yaakov Sorni est parti chez le Stipler avec des parents qui se plaignaient que leur adolescent ne voulait rien faire des enseignements qu'il a reçus à la maison. Et le Stipler a réagi très vivement, parce que, bon, en connaissant toute la toile de fond, a réagi très très vivement en disant « Aben anus lo lekayem et mitzvah biglal ma shekaratem chinuch » Cet enfant, ce garçon, il est anus. Alors en hébreu, le statut halachique de anus, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas faire une certaine mitzvah parce qu'il est en contrainte de quatre forces majeures. C'est-à-dire il ne peut pas. Et ici, il a élargi ce terme pour expliquer que ce garçon, il arrive à une telle stade d'intolérance qu'il est pratiquement au stade halachique de anus, c'est-à-dire qu'il est, il est considéré comme pratiquement exempté, très très fort, de faire telle mitzvah, je crois que c'était la tefila, de faire une certaine mitzvah. Et il dit, le Stipler leur a dit, biglal ma shekaratem chinuch, à cause de ce que vous avez appelé éducation. C'est très très dur, ce qu'il dit ici. On va essayer de détailler. Comment c'est possible d'arriver à une chose comme ça? La définition qu'il donne le Rav dans son livre sur Ones, il dit en hébreu, matzav shebo hachanich gva lo echye mesugal le itgaber velifchor betov. C'est une situation qu'on ne souhaite à personne, Bezrat Hashem, où l'éduqué arrive à un point où il lui est impossible d'agir correctement. Alors, agir correctement dans un domaine bien spécifique, oui, d'accord, on est en train de parler de façon ciblée. Comment on peut arriver à une chose pareille, Khalila? Laura, il va nous raconter une petite histoire qui est toujours un peu frissonnante, qui va nous expliquer ce phénomène dans le Nefesh HaAdam. Il dit que en Pologne, il y avait des petits spectacles de rue, de saltimbanques qui allaient de village en village, qui venaient avec des ours, et puis des instruments de musique, et puis ils se mettaient sur la place du village. Vous avez vu, je vous fais voyager même jusqu'à là-bas. Ils se mettaient sur la place du village, et ils jouaient de la flûte, et les ours y dansaient. Et ils récoltaient quelques pièces, et c'était un petit spectacle de village. Ouais, vous imaginez l'ambiance, le truc, quoi. Maintenant, le Rav Yaakov Sorni pose la question, comment les dompteurs ont réussi à faire intérioriser dans le cœur de l'ours l'amour de la musique, si tant est que c'est ça? Comment c'est possible? Alors, c'était en réalité une illusion d'optique. C'était en réalité un long apprentissage que faisaient les dompteurs à ces ours. Maintenant, je sais que dans le public féminin, toujours j'entends... Alors, n'ayez pas peur, tout va bien pour ces ours maintenant, mais c'est à l'époque, comment ils faisaient? En fait, depuis qu'ils étaient oursons, petits, ils leur faisaient un apprentissage en dressage. Alors, comment ils faisaient? Ils les mettaient dans des cages pour les ours, dont le sol était couvert de braises. Pas des braises éteintes, des braises allumées. Ouais. Et ils jouaient une musique à la flûte. Il est resté quelques minutes. Qui c'est qui a dit Atnaya? J'ai un plaisir à trouver les collectionneurs comme ça. Alors, il les laissait donc quelques minutes par jour sur ce sol de braise et il jouait à la flûte une musique, toujours la même musique. D'accord? Et il faisait comme ça des jours et des jours et des jours et des jours. Maintenant, les ours, évidemment, les oursons, vous pouvez imaginer que sur les braises, ils se tordaient de douleur, oui. Donc, en fait, ils les ont dressés à ce qu'à l'écoute de cette musique à la flûte, ils font des mouvements qui semblent être une danse. D'accord? Donc en grandissant, ils continuaient le stimuli, si vous voulez, de l'écoute de la musique, déclencher la réaction de faire des mouvements qui ressemblent à une danse. pour les gens qui venaient sur la place du village, c'était très amusant. Ils voyaient des ours qui aiment la musique, c'est vachement marrant. Mais ils ne savaient pas tout l'apprentissage cruel qu'il y avait derrière ça. Quel rapport maintenant les ours, elle est venue de Jérusalem, elle nous raconte les ours et la Pologne. On va essayer de comprendre quel est le rapport. Ici, on a ce qu'on appelle une loi indéfectible du Nefesh HaAdam. Et l'ours n'est pas un homme, c'est vrai, j'en conviens avec vous, ça dépend du principe, voilà. Mais on a un point commun avec eux, c'est le Nefesh HaBahamit. D'accord ? Nous avons une partie du Nefesh qui est la plus basse, que l'animal aussi, il a un Nefesh bas. On a ce point commun avec eux. Ouais. Dans ce fonctionnement-là, nous sommes les mêmes. Ça veut dire que, de même que ça marche sur un animal, cette expérience-là, ça marche exactement sur les mêmes règles au niveau de l'être humain. Dans le Nefesh HaBahamit, lorsqu'il y a une répétition d'une association entre deux choses, se crée un lien profond dans le Nefesh. Maintenant, le cerveau n'intervient pas ici pour dire « mais il n'y a aucun lien de sens. Il n'y a aucun lien entre la musique à la flûte et les braises. » Non. Mais la Chavaya, l'expérience vécue, les sensations, enregistre qu'il y a un point de liaison entre cette musique. Vous êtes avec moi parce que c'est un point un peu délicat. Ça s'appelle une association. Ça s'appelle plus qu'une association. Ça s'appelle un conditionnement. Ce sont des choses qui ont été étudiées aussi bien à travers la psychologie. Je vous donnerai le mécor de Torah qui parle de ça. Tout le monde voit, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de problème, vous êtes là bien. Alors, et d'ailleurs, si je me fatigue, il faut pas savoir.
Ah oui, voilà. Ça va pas être aussi intéressant.
Ah, moi, je oh, bah, franchement, je suis très optimiste. Merci. Vu que j'ai pas trop de voix ce soir, alors ça peut être très bien. Alors regardez, on reprend parce que c'est un morceau un peu difficile. Je ne suis pas venue vous mettre l'angoisse ce soir. Khas Khalila, vous savez, je suis sympathique. Mais on va passer cette piste noire ensemble. Ouais, vous avez mis vos skis, c'est bon. Allez, les lunettes, tout. Allez, on y va. Les bâtons, on y va. On va passer cette piste noire parce que, Be'ezrat Hashem, ce petit morceau est un peu difficile. Mais lorsqu'on l'a compris, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'erreurs qu'on peut éviter. Vous ne pouvez pas vous imaginer la bonification au niveau chinour qu'on peut gagner de ça. Ah, je vous motive un petit peu. Allez, maintenant on repart à la piste noire. Je disais donc que ces petits oursons, ils ont été formés depuis qu'ils sont petits à ce qu'on les met, on leur fait faire vivre une expérience très pénible d'être sur un sol de braise ardente, tout en jouant, les dresseurs, ils jouaient la même musique à la flûte. D'accord ? Maintenant, ils leur ont fait ça à srot permim, des dizaines de fois. Parce que pour que ça prenne, il faut qu'il y ait une répétition très très forte. C'est pas un coup, une fois. Un coup, une fois, ça s'appelle une association. Ici, ça ne s'appelle pas une association, ça s'appelle un conditionnement. En hébreu, atnaya. D'accord ? Yetzirat tnai. C'est-à-dire que c'est formé un conditionnement, un lien entre ces deux choses-là. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas, ça défie la logique. N'importe quel, bon, un ours, il ne sait pas, mais un être humain, il sait très bien qu'il n'y a aucun rapport entre ça et ça. Il peut savoir un million de choses. Il y a l'intellect et le réservoir des affects. Dans le monde affectif, cette expérience, elle s'est inscrite comme ça est lié à ça. Mieux que ça, ça réveille les sensations de ça. Les deux choses sont ensemble, complètement liées. Et ce n'est pas une information que si tu parles avec la personne, tu lui expliques, mais ça n'a rien à voir. Il te dira, je comprends, je sais. Je sens pas comme ça. On est en train de parler de quelque chose de très délicat. Aval, il faut en parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Donc au bout d'un moment, on a compris, la répétition de l'exercice fabrique un conditionnement. Arshav, pardonnez-moi, j'ai déjà fait la bracha. C'est une information qui est tellement profondément inscrite dans le Nefesh que ça ne passe pas du tout par la case réflexion. Par exemple, lorsque les ours... Ils dansaient sur la plateforme. Les grands, une fois qu'ils ont fini leur dressage et ils dansaient à l'écoute de la musique, à la flûte, quand ils dansaient sur la place publique, nous, on a l'impression, ah, la flûte, ça leur rappelle qu'ils ont eu mal. Vous êtes d'accord? C'est comme ça qu'on verrait ça de prime abord. Ça va beaucoup plus loin que ça. L'écoute de la musique à la flûte réveille, déclenche, le système nerveux déclenche la sensation de douleur. Donc c'est pas que ça leur rappelle qu'ils ont eu mal, ils ont mal. Mais il n'y a plus de braise. Il n'y a plus de facteurs physiques. Ouais. Il n'y a plus de braise, il n'y a plus rien. Comment c'est possible qu'ils aient mal? Parce que comme ça, il est fait le Nefesh Adam, que lorsqu'il a inscrit un conditionnement, oui, alors tout seul, il réveille les sensations. Vous savez très bien que ce n'est pas le coup qui fait mal. Vous savez ça ou vous ne savez pas? Qu'est-ce qui fait mal? C'est le système nerveux qui envoie des substances dans le corps pour déclencher la sensation de douleur. Nous sommes les pilotes de ça, vous savez ça? C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à des maîtrises de ne pas sentir la douleur, parce que c'est en réalité un processus que nous faisons. Ce n'est pas le coup qui fait mal. Ça fait mal, c'est parce que le corps se protège. Il ne veut pas qu'on se fasse mal. Donc il déclenche la sensation de douleur. Comment ça se fait que ça ne fait plus mal après 5 minutes? Parce que, encore une fois, le corps déclenche la sécrétion d'une autre substance qui arrête la première substance, qui crée la sensation de douleur. Je ne fais pas un cours médical, loin de là, loin de moi cette pensée. Mais ça veut dire que, pour vous expliquer, que nous, en réalité, nous déclenchons la sensation de douleur nous-mêmes. C'est le système nerveux qui fait ça. C'est pour ça que des gens peuvent avoir mal alors qu'il n'y a pas de cause physique, mais de cause psychosomatique. Ça ne fait pas moins mal. Les gens ils pensent que c'est psychosomatique. C'est psychosomatique, ça fait mal quand même. Les gens qui ont mal au ventre par le stress, on a l'impression qu'ils affabulent. Mais ils ont réellement mal parce que le système physiologique, il répond à la demande de la disposition psychologique. Vous comprenez l'idée? Donc ici, on est en train de comprendre que l'ours, lorsqu'il entendait la musique à la flûte, c'est pas qu'il se rappelle qu'il a eu mal, c'est qu'il a maintenant, tout de suite, encore mal, même s'il n'y a plus de braise. Bon, vous voyez où je veux en venir? J'espère que vous ne voyez pas encore, je vais vous y amener doucement. Alors si c'est comme ça, on est devant quelque chose d'assez important ici. On est en train de s'approcher doucement de l'idée que l'atmosphère émotionnelle qui entoure la transmission de valeurs, elle est encore plus importante que la teneur des valeurs qu'on est en train de transmettre. On est en train de dire que même si on est en train de transmettre des choses très authentiques et extraordinaires, l'atmosphère émotionnelle qui entoure les passations des valeurs, elle a un impact qui est beaucoup plus fort que ce qu'on est en train de dire.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.